C'est parti pour le téléphone sonne. La France qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football, ce n'est pas une raison pour se désintéresser du reste de l'actualité. Lundi, en effet, Emmanuel Macron ira s'exprimer devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles. Mardi, alors que le président lui ira voir le match en Russie, les députés entameront en séance publique l'examen du volet constitutionnel de la réforme des institutions voulue par le chef de l'État. Un projet qui a déjà donné lieu à de vifs débats en commission ces derniers jours. Il faut dire que le texte est riche et parfois un peu complexe. Alors ce soir, on va tenter de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer, car il y va de l'avenir de notre démocratie. Précisons au passage que ce projet de révision constitutionnelle n'est que le premier étage de la fusée, car il y aura ensuite à l'automne deux autres textes tout aussi importants qui porteront sur la baisse du nombre de parlementaires et sur le mode de scrutin. Alors, si vous êtes perdu, c'est le moment ou jamais de rester à l'écoute. Pour nous éclairer ce soir, trois parlementaires que je remercie d'être là dans cette courte fenêtre de tir entre deux matchs du Mondial. Sacha Houlier, député La République En Marche de la Vienne, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du groupe pour cette réforme. Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Hervé Marseille, sénateur centriste des Hauts-de-Seine, car le Sénat aussi est concerné, bonsoir à
et
vous.
Et oui, bonjour.
Et Karine Bécard, du service politique de France Inter. On attend évidemment vos questions, comme tous les soirs, au 01 45 24 7000.
France Inter. Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Daniel, il nous appelle du Cher. Bonsoir Daniel.
Bonsoir à tous.
Bienvenue à vous.
Pardon ?
Bienvenue, je vous disais.
Merci. Eh bien, c'est simplement pour donner mon avis à propos de la démocratie, un avis d'un citoyen de base, ancien élu municipal et assez engagé politiquement et socialement dans la vie locale de la commune de 10 000 habitants où je demeure. Alors, j'ai l'habitude de dire à mes copains de gauche, qui critiquent évidemment nos institutions, que nous baignons dans la démocratie. Parce que nous pouvons nous exprimer à tous les niveaux des territoires, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, à travers des consultations comme les assises qui viennent de se terminer, de la mobilité, l'alimentation, l'énergie. Nous avons accès, nous pouvons rencontrer nos députés et tous nos élus. Nous avons le choix de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Nous pouvons nous déplacer librement. Enfin, moi, si vous voulez, quand je regarde dans ma jeunesse et quand je regarde autour de moi dans les pays étrangers, j'estime que nous sommes effectivement dans une grande démocratie. Alors, paradoxalement, je pense que cette situation ne va pas s'éterniser parce que nous sommes bientôt 8 milliards d'habitants sur la planète avec une consommation et, encore une fois, des modes de vie qui, j'estime, sont insoutenables. Donc nos élus, nos responsables, à mon avis, vont devoir prendre des mesures coercitives de manière à ce que cette situation soit acceptable par l'ensemble des citoyens, et je dirais l'ensemble des humains.
Alors ça, voilà. Peut-être, Daniel, on verra. Merci en tout cas pour cette entrée en matière. On baigne dans la démocratie, dites-vous, mais il y a peut-être toujours des choses à améliorer. C'est peut-être un peu l'idée de cette réforme, Sacha Houlier. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il voulu une réforme des institutions? C'est pour améliorer le fonctionnement de la démocratie?
Moi, je dirais qu'il y a quatre principes dans cette réforme. Le dernier étant celui que vous avez cité en premier, à savoir la rénovation de nos institutions pour introduire d'abord une réduction du nombre de parlementaires, une dose de proportionnel pour que les gens se sentent mieux représentés et que des gens qui ne sont pas en nombre suffisamment représentatif au Parlement y entrent davantage et que le non-cumul des mandats s'exprime pleinement, notamment pour que le non-cumul des mandats des fonctions exécutives locales avec celles de parlementaires, eh bien, se traduise dorénavant par le non-cumul des mandats dans le temps. Ça, c'est le premier principe. Le second principe est celui d'une rénovation de la Constitution. Et votre auditeur parlait d'un enjeu climatique, environnemental ou de protection de la biodiversité que nous inscrirons à l'article 1er de la Constitution. Et qui fait que finalement, dans le deuxième principe, est une rénovation de ce qu'est notre outil constitutionnel. Le troisième principe étant une réorganisation du travail du Parlement pour le rendre plus puissant, plus efficace et pour qu'il contrôle mieux les politiques publiques puisqu'il ne suffit pas de les voter mais également de contrôler l'action du gouvernement. Et le dernier pilier qui fait aussi écho à une revendication de votre auditeur, concerne les territoires. Et pour prendre en compte davantage la différenciation territoriale, d'abord des collectivités locales qui sont dites classiques, qui peuvent expérimenter et puis pérenniser une expérimentation, et puis ensuite d'autres, reconnaître la particularité de la Corse ou celle des territoires d'outre-mer.
Alors on reviendra sur ces différents points évidemment, mais tout de même, Daniel Obono, est-ce que vous pensez, vous, que cette réforme est à la hauteur du défi actuel concernant la crise de la démocratie? Parce qu'il y a quand même une crise de la démocratie dans ce pays, notamment vu le nombre de gens qui ne vont pas voter ou qui votent blanc ou nul.
Mais j'allais le dire, et par rapport à l'intervention de l'auditeur, sur le papier on pourrait dire effectivement tout va bien, il y a les droits, libertés fondamentales qui sont garantis, mais dans la réalité on voit bien qu'il y a un hiatus de plus en plus grand entre ce que vivent les gens et le fait qu'ils aient moins accès aux droits, qu'ils voient leur liberté fondamentale restreinte, et puis le fait qu'ils se sentent moins avoir un contrôle sur les institutions. Et ça, c'est ce que vous disiez, l'abstention de plus en plus grande. Nous sommes issus d'une élection législative où il y a quand même un taux d'abstention qui pose question, et ça fait des années que ça dure. Et donc, de notre point de vue, cette réformette, cette révision constitutionnelle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Nous appelons à une constituante, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, la constitution de la Ve République a fait son temps. Elle a fait son temps, c'est-à-dire qu'elle correspondait à un moment donné historique très précis à une nécessité, et elle l'a servi. On peut pas dire le contraire, mais qu'on est au 21e siècle avec un peuple éduqué, conscient, avec des enjeux effectivement, notamment la question environnementale, mais pas que la question du droit à disposer de son corps, y compris jusqu'à la fin de sa vie. Il y a tous ces enjeux-là dont il faut aujourd'hui tenir compte dans les textes fondamentaux. Et puis il y a cette nécessité de rendre le peuple à nouveau acteur et pas juste tous les 5 ans des choix politiques à donner, élargir les droits. Et donc, dans ce sens-là, c'est effectivement à côté complètement de ce qu'il faudrait pour rénover effectivement les institutions et rénover la démocratie.
Hervé Marseille, sénateur centriste des Hauts-de-Seine, quelle vision avez-vous globalement de cette réforme qui est soumise aujourd'hui au Parlement? Vous qui êtes au Sénat, Gérard Larcher disait sur notre antenne il y a 2 jours, ce serait, si c'était voté en l'état, peut-être la première régression des droits du Parlement depuis 1958. Ah
oui. Oui, je pense que le texte tel qu'il existe aujourd'hui, on peut pas le voter. On peut pas le voter tel qu'il existe. Mais j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, on avait déjà amélioré les choses. Donc les députés, mes collègues, ont fait preuve de discernement. Je pense que c'est indispensable. Parce que dire on va améliorer la démocratie, on va diminuer le nombre de parlementaires. Pourquoi pas? Je veux dire, je suis pas sûr que ça améliore la démocratie d'avoir moins de parlementaires. C'est dans l'air du temps, parce que dès qu'on dit à la population, aux citoyens, vous allez avoir moins de parlementaires, on sait que l'antiparlementarisme existe dans ce pays. Et donc, jusque-là, il y aura beaucoup de gens pour dire oui, pourquoi pas? Il y a 577 députés, il y a 348 sénateurs. Il y en a 30% de moins, pourquoi pas? Et il y aura une majorité pour dire que c'est bien. Ceci étant dit, ça va faire des circonscriptions à 240 000 habitants. Et tout à l'heure, l'auditeur disait, dans ce pays, on peut rencontrer son député. Enfin, maintenant, il va falloir un compteur Gégère pour le trouver, parce que il va circuler chez lui à 80 km heure sur les riantes routes départementales de la France.
Tout est dit, là.
Et donc, ils le verront peut-être au tirage au sort. Mais en tous les cas, ils vont pas souvent le voir, pas plus que les sénateurs, parce que vous allez avoir beaucoup de départements où il y aura qu'un député ou un sénateur. C'est pour ça que le Sénat demande comme garantie que dans tous les départements, il y ait au moins un député, au moins un sénateur. Parce qu'il faut que les Français...
Pardon ? C'est une garantie du texte.
Oui.
Dans le texte aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est une réforme qui favoriserait les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains. Au sens où, si on attend des territoires ruraux comme la Creuse, comme la Haute-Vienne, ou à moindre échelle comme la Vienne, bien, ces territoires seront mieux représentés, puisque si vous savez qu'il y a une différence qui est non admise entre les départements, donc il peut y avoir une différence de population importante entre les départements, dans les départements, elle doit être à peu près équivalente. Ce qui revient pour la Vienne à avoir deux ou trois députés avec des circonscriptions qui sont plus ou moins équivalentes.
Voilà.
Et donc, ce qui veut dire que dans les zones urbaines, il y aura peut-être un peu moins de députés, ce qui s'admet. et dans les zones rurales, pour le coup, en représentation globale, il y en aura plus.
Pourquoi ça s'admet, excusez-moi, je veux dire, la question de la représentation,
parce que les parlementaires, on peut aussi admettre qu'ils sont plus forts quand ils disposent d'une équipe qui est plus nombreuse, quand ils disposent des moyens qui sont plus importants.
C'est une vision complètement arithmétique et comptable de la réalité du travail de parlementaires,
les uns après les autres.
Leur permet de travailler et de connaître leur calendrier. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle on exige le calendrier du gouvernement, qu'on exige de faire un débat d'orientation préalable, qu'on exige également la rénovation du temps qui était celui issu de la réforme Sarkozy en deux semaines dédiées au gouvernement, deux semaines de contrôle, et qu'on introduit des temps dans lesquels on peut avoir
plus de temps. Daniel Obono, sur cette question du nombre de parlementaires.
Non, je pense que c'est pour le coup un argument assez démagogique. En soi, ce n'est pas vrai que moins de gens font mieux du travail. Donc c'est une vision très macroniste. On a c'est un état d'esprit managérial de l'entreprise, et donc c'est ce qu'on voit à l'œuvre depuis des années à tous les niveaux. Ça a été appliqué y compris à la fonction publique, et maintenant on l'applique au Parlement. Mais moi je ne crois pas. Je crois que la représentation, ce n'est pas juste une question de chiffres et de nombres. C'est une question d'abord de présence. Et même dans des territoires densément peuplés, justement, il faut aussi une présence. Et les mêmes qui disent il faut moins de parlementaires disent on ne vous voit pas suffisamment sur les marchés, etc. Et puis le travail du parlementaire, c'est un travail politique, et c'est une question de est-ce que on a le pouvoir de décider de son agenda, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, 75% ce n'est pas ce que vous faites. 75% de l'initiative des textes et du fait du gouvernement.
Et c'est la raison
pour
laquelle
vous ne renversez absolument rien.
La semaine de contrôle est réservée aux propositions de loi issues du parlementaire.
Vous ne renversez absolument pas les instruments qui rendent
aujourd'hui. Pardon à tous les deux.
Non, mais pour finir sur le pouvoir des parlementaires, vous ne renversez absolument pas les instruments qui rendent aujourd'hui les députés impuissants. Ce n'est pas leur nombre qui les rend impuissants.
Alors il vous faut lire le texte que nous avons adopté.
Non, mais je l'ai lu et on l'a travaillé en commission des lois. Nous sommes tous deux commissaires aux lois. Donc nous avons une vision différente, et ce que vous faites, c'est rendre la charge encore plus importante sur moins de députés. C'est effectivement étendre les techniciens du droit qui vont faire les lois, mais ce n'est pas renforcer le pouvoir.
Alors attendez, Karine Bécart, je voudrais juste remettre un peu, parce que là on assiste à une belle bataille entre la France insoumise et la République en marche, ce à quoi on assiste beaucoup quand on surveille les débats à l'Assemblée, ce qui est mon cas en tant que journaliste parlementaire, sous l'œil un peu vide du centre, je vous l'accorde. Je voudrais juste préciser deux, trois choses pour les auditeurs. La première, c'est que la référence que fait systématiquement quasiment le Sénat sur il faut garder des sénateurs et globalement des parlementaires dans les départements. J'ai juste envie de dire calmons-nous quand même, on n'est plus à l'époque de la carriole, on arrive à rejoindre les points centraux de nos départements assez rapidement. Donc si jamais on élargissait un petit peu nos circonscriptions, ce ne serait pas dramatique, il me semble. En tout cas, il y a un certain nombre de constitutionnalistes qui sont d'accord pour dire ça. En revanche, quand on nous dit moins de parlementaires, meilleur travail, pour l'instant, on n'arrive pas à nous le prouver. Et on aimerait en être certain. On nous dit moins de parlementaires parce que plus de moyens, on n'en est pas certain non plus. C'est-à-dire, il faudrait qu'on nous présente les choses de manière un petit peu plus précise. Est-ce qu'effectivement, à moyen constant, c'est-à-dire ce qu'a aujourd'hui l'Assemblée de manière globale pour travailler, sera distribué, aujourd'hui c'est distribué entre, je résume, 577 députés, est-ce que ces mêmes sommes d'argent seront distribuées désormais entre les 404
députés qui resteront ?
Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, c'est là où situe précisément le débat.
Et on précise quand même.
Ils auront beaucoup plus de travail.
Ils auront beaucoup plus de travail.
Et on précise aussi une chose pour que les choses soient bien claires, c'est que cette question du nombre de parlementaires, elle arrivera dans une loi à l'automne. C'est pas le texte qui est en débat actuellement.
C'est une loi organique et ordinaire qui ne nécessite pas les mêmes procédures que la procédure constitutionnelle que nous examinons actuellement.
Alors on va en revenir justement au texte que vous examinez en ce moment, que vous avez vu en commission des lois et qui arrivera mardi à l'Assemblée, sur la question de la fabrique de la loi, parce que ça semble être une question qui vous divise pas mal. Que changerait précisément cette réforme, Sacha Houlier ?
Plusieurs choses. D'abord, la façon dont on anticipe la création de la loi. Nous pouvons avoir une visibilité sur notre agenda, ce que nous exigeons désormais du gouvernement, à 6 et à 3 mois. Ensuite, sur la façon dont on peut débattre préalablement, avec un débat d'orientation dans la loi. Ensuite, la façon dont le Sénat le fait déjà, mais l'Assemblée nationale le fait insuffisamment, le pouvoir d'adopter des textes en commission, et donc de ne pas étudier tous les textes en séance, de réserver à la séance les textes qui sont aujourd'hui les plus importants.
Il s'agit quand même globalement d'aller plus vite, c'est ça ? D'être plus efficace.
Mais entre autres, la raison est pourquoi aller plus vite ? pourquoi aller plus vite?
C'est l'argument utilisé, permettez-moi de répondre
en prenant l'exemple du budget. Nous passons aujourd'hui 70 jours à établir un budget que nous ne contrôlons qu'une demi-journée. Voilà la réalité des faits. Aujourd'hui, le Parlement est un Parlement tribun, dans lequel on proclame, on déclame, on énonce, on édicte, mais on ne contrôle jamais l'exécution du budget. On ne regarde jamais comment, finalement, le gouvernement a appliqué la loi que nous avons faite. Et je vais vous prendre un exemple.
Et on donne la parole
très
à Hervé Marseille.
La loi Macron, elle prévoyait qu'il y ait un tirage au sort pour ouvrir des nouvelles charges pour les notaires, mais seulement pour les notaires qui venaient de s'installer. Dans les décrets d'application, le Premier ministre de l'époque a fait en sorte que tous les notaires puissent concourir à cet tirage au sort, et donc à dévoyer le texte législatif.
Oui, mais justement,
Hervé Marseille.
Quand on parle de rapidité, c'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, améliorer les conditions dans lesquelles on fabrique les textes pour aller un peu plus vite. Parce qu'entre le moment où on annonce une intention, on dit on va faire ça, et le Parlement est saisi d'un projet, on met en général 18 mois, voire davantage, à ce que ce texte aboutisse et qu'il soit effectif. Donc entre le moment où on l'a dit à la population, aux citoyens, et le moment où ils voient véritablement l'effectivité du texte, il y a de l'eau qui passe sous les ponts. Donc il faut que tout le monde s'y mette, parce que le Parlement le fasse, c'est bien, mais il faut que l'État aussi le fasse. Parce qu'on peut aller deux fois plus vite à voter des textes, pourquoi pas dans certains cas, mais il faut que les décrets d'application ne mettent pas 3 ans à venir. Parce que sinon, ça ne sert à rien de s'énerver. Et donc, c'est vrai qu'il y a 3 gros sujets pour le Sénat, parce que c'est vrai qu'on a déjà pris beaucoup de mesures concernant les amendements.
On restreint le droit d'amendement ou pas avec ce...
La première fois depuis 1958...
Je vous passe la parole dans une seconde, Daniel.
À l'origine, il y avait dans les textes, effectivement, des préoccupations, parce qu'on se demandait où on voulait aller. Nous, au Sénat, on a déjà des règles qui contraignent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des amendements à tort et à travers. Il y a ce qu'on appelle le lien direct, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte.
Qu'on appelle les cavaliers législatifs.
Voilà. Et puis, vous avez ce qui est du domaine réglementaire, décret, etc., et qui n'est pas de l'ordre législatif. Donc, nous, en commission, ça, on écarte. Et donc, on fait le tri, ce que ne fait pas l'Assemblée nationale.
Qui le fait, le tri?
Non.
La commission?
Non.
Il n'y a pas de nombre d'amendements qui ne sont pas présentés ni en commission
article
ni
40,
en séance.
Article 40, c'est de l'article 40, 40 c'est parce que c'est une aggravation de
charges. Alors attendez, là on ne s'entend plus. Daniel Obono, pour vous, sur le droit d'amendement.
Non, il y a évidemment
il
y a eu un recul, et je pense que ça, à part La République En Marche et peut-être les deux groupes de la majorité, c'était l'avis partagé. Il y a les constructifs et
ah,
il me semble le MoDem.
D'opposition,
oui, mais ils font partie de la majorité, n'est-ce pas?
Non, c'est un groupe d'opposition déclaré d'opposition à l'Assemblée.
Oui. Et donc, ils font partie de votre majorité?
Non, mais c'est un groupe d'opposition.
D'accord. On a bien compris. Donc,
ça s'appelle les institutions de la Ve République.
Oui, merci. Donc, on a compris. Ils ne votent jamais avec vous. Ils n'ont pas absolument pas à voter la confiance au gouvernement. Bref,
quoi qu'il en soit,
la majorité des groupes d'opposition sont contre votre volonté de restreindre le droit d'amendement. Mais moi, je voulais revenir sur l'idée selon laquelle, quand vous dites « on », qui c'est « on » qui annonce des... Non, qui c'est « on » qui annonce des projets de loi? C'est le président de la République. C'est le gouvernement. Là, on nous dit il faut aller plus vite, il faut aller plus vite et maîtriser son agenda. Mais si ce n'est pas l'Assemblée qui décide, je rappelle quand même le chiffre, il faut le rappeler, parce qu'on dit l'Assemblée prend du temps, etc., etc. C'est 75%. Dans la dernière mandature, c'est 75% et on est parti pour le même ratio entre l'initiative...
75% des textes sont imposés, effectivement.
Admettez qu'il y a quand même des amendements qui sont redondants.
Non, mais on peut, ça, c'est le détail. Mais je voulais revenir à l'origine, parce que si 75% des textes sont décidés par le gouvernement et l'exécutif, c'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui décide, y compris quand commence la session extraordinaire. Et donc, c'est de sa responsabilité de faire aussi le tri sur, à un moment donné, on fait beaucoup d'annonces et on a vu d'ailleurs dans cette session-là le nombre de la proposition de loi à fausse information, telle proposition de loi qui sont le fait du prince, qui sont le fait du monarque présidentiel. Et ensuite, on impute à l'Assemblée la responsabilité de ne pas aller si vite.
Les uns après les autres, Karine Bécart.
Ça va être très rapide. Madame Obono, à un moment donné, il faut que vous soyez aussi raisonnable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que vous présentez des amendements qui sont souvent redondants. Moi, je suis juste une journaliste. J'étais à la commission des lois à laquelle vous avez participé aussi. Je vous ai entendu, vous et tous les commissaires aux lois qui étaient là, à l'occasion de ce texte, sur des amendements où vous êtes tous d'accord, vous êtes capables d'en présenter des dizaines et des dizaines qui sont quasiment semblables. On passe 2 heures à se mettre d'accord sur un texte dont tout le monde est d'accord, par exemple, sur supprimer le mot race de l'article 1er de la Constitution. Honnêtement, quand on est juste extérieur, quand on est juste observateur, si des citoyens viennent pour observer ça, ils ne comprennent pas en fait à quoi sert tout ça.
Écoutez, moi, je découvre et aussi, là, c'est excessif. Je découvre aussi le travail, mais ça, vous savez bien qu'il y a différents groupes. Nous, on ne peut pas anticiper en se disant, on a essayé de faire ça, en fait, et ça, c'est bien quand on peut converger, mais nous, on a une centaine d'amendements sur les plus de 1000 qui existent. Vous n'allez pas dire, alors, il y en a peut-être qu'on peut trouver exotiques, etc. Mais le travail est déjà fait. Le bureau de la séance, le travail de vérifier si c'est article 40 ou si...
quand on vous demande d'en enlever, vous voulez tous les assumer,
oui, mais
en fait.
Parce qu'on assume aussi nos propositions.
Il y a un petit peu d'excès quand même et qu'il faut nettoyer quelque chose.
Allez, on va pas vous mettre d'accord, mais on va essayer...
Ça, le fond politique, c'est quand même celui-là. Parce que sinon, en fait, on tourne en rond et on l'a vu dans les débats de la commission.
On va essayer d'avancer.
Un certain nombre de gens, il faut maîtriser l'ordre du jour. On ne le maîtrise pas à la racine même du problème.
Daniel
Obono, s'il vous plaît,
Juste deux éléments.
J'intervenais après vous aussi.
Non, mais deux éléments. Un, le droit d'amendement, c'est la première fois depuis 1958 qu'il est restreint pour le gouvernement. La première fois. Parce que toutes les mesures qui sont applicables aux parlementaires s'appliqueront aussi au gouvernement. Et deux, sur la semaine de contrôle que nous avons, l'inscription des textes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sera réservée aux propositions de loi. Donc, d'initiative parlementaire.
Enfin, vous nous expliquez que la 5e République avait effectivement un certain nombre
de... Excusez-nous d'avoir corrigé le texte qui nous était proposé.
Daniel Le Bonnet, s'il vous plaît, il y a
ce genre de disposition.
C'est la 5e République qui veut ça.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Et là, vous restreignez un petit peu.
Moi, j'ai une question.
Vous avez rééquilibré le texte. Non, ce n'est pas rééquilibré du tout. Vous ne rééquilibrez absolument pas les pouvoirs entre le gouvernement et l'Assemblée.
J'ai une question, excusez-moi, qui nous vient de franceinter.fr. C'est Patrice qui nous demande: une vraie réforme constitutionnelle ne devrait-elle pas instituer un droit d'amendement citoyen et un système de votation comme en Suisse, Sacha Houlier? Puis après, on va au standard parce qu'il y a des tas de questions sur le reste du texte. On ne va pas rester que là-dessus.
En fait, il y a un dispositif qui dans la Constitution qui s'appelle l'absence de mandat impératif. C'est la raison pour laquelle chacun a reçu un mandat représentatif. Et contrairement à ce qu'a dit Daniel Obono tout à l'heure, moi j'estime qu'on ne vit pas un moment démocratique tous les 5 ans, on vit un moment démocratique à chaque fois qu'il y a une élection dans notre pays. Et que dire qu'on a un moment démocratique tous les 5 ans, c'est mépriser toutes les collectivités locales pour lesquelles on élit un maire, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional. Et donc il y a une initiative citoyenne qui est le droit de pétition, qui existe dans notre constitution et que nous ne remettons pas en cause.
On repart au standard. Catherine est en ligne de Saint-Nazaire, semble-t-il. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
J'ai réagi un peu tout à l'heure en écoutant, il y a beaucoup d'abstention, ça pose question. Moi, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'on en est à est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas, que maintenant les présidents ne sont pas élus avec énormément de voix, il faut bien le dire, dans le nombre d'électeurs, et que ce soit le vote blanc ou les abstentionnistes, moi, je pense qu'il est temps maintenant d'aller parler à ces gens-là, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et je pense que on est de plus en plus nombreux, parce que moi, avant, je votais. Après, j'ai voté blanc. Et maintenant, les options politiques m'intéressent plus beaucoup. Je préfère de nettement les gens agissant sur le terrain. Mais je me dis qu'on est nombreux à plus se sentir concernés. Et peut-être qu'on aimerait bien, dans une soi-disant démocratie, être interrogé pour savoir quel type de société on aimerait, quelles bonnes idées on pourrait peut-être avoir.
Effectivement, merci beaucoup Catherine pour cette interpellation et ça va nous permettre de parler maintenant de la suite du contenu de cette réforme avec notamment les autres institutions comme par exemple le Conseil économique, social et environnemental qui deviendrait le forum de la République si j'ai bien compris et il est question d'en faire une chambre de participation citoyenne. Est-ce que vraiment ça va pouvoir prendre cette forme-là, Sacha Houlier?
D'abord il y aura un renvoi à la loi organique pour ce qui est de sa composition mais je crois que les corps intermédiaires sont tout à fait légitimes à y siéger. Même si on peut y ajouter effectivement des citoyens tirés au sort, ça ne me pose pas de difficulté. Que par ailleurs, ça nous permettra aussi d'avoir une saisine a priori sur les textes économiques, sociaux et environnementaux. Donc les textes qui sont les textes majeurs que nous examinons à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et que par ailleurs, si on se pose la question aussi de la participation, moi je crois qu'on a une chance en Europe, c'est que notre République, elle est stable, elle est rationalisée. Et que quand on regarde un peu tout autour, on peut aussi s'en satisfaire.
Hervé Marseille.
Oui, je crois qu'une démocratie forte, c'est un exécutif fort et un Parlement fort. Et le Parlement, c'est là où on débat et l'exécutif, il doit décider. Regardez les pantalonnades concernant Notre-Dame-des-Landes. On a consulté tout le monde, plusieurs fois. On a fait des textes, il y a eu des décisions de justice. À un moment donné, il faut bien quelqu'un qui décide qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Parce que consulter, c'est bien, mais il y a des limites. On peut consulter tous les 8 jours jusqu'à temps qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Donc, il faut un exécutif fort. Il y a une situation internationale dangereuse. La France est engagée avec ses armées à travers le monde. Il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir décider, il faut pouvoir trancher. En Europe, on voit la situation qui se dégrade. Et je dirais à notre auditrice que il faut voter. C'est préoccupant qu'il y ait beaucoup de gens qui votent pas. Parce que si vous votez pas, Edgar Faure disait, si vous avez pas d'idées, prenez les miennes. Ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde ce qui se passe en Autriche, quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe, y compris en Allemagne, moi, j'ai pas envie de me réveiller dans un pays qui est devenu l'Italie d'aujourd'hui. Je parle politiquement, hein, j'aime beaucoup l'Italie. Mais l'Allemagne ou l'Autriche, ça veut dire que c'est les autres qui votent à votre place. Et bien sûr, la démocratie, c'est au quotidien les collectivités locales. J'étais maire pendant 20 ans, c'est important. La vraie démocratie, elle vit au quotidien là-dedans. Mais il faut aussi qu'il y ait un Parlement très fort qui puisse discuter avec l'exécutif, qui puisse débattre et qui puisse au besoin s'opposer avec l'exécutif. Or là, c'est vrai qu'il faut améliorer le texte parce que le Parlement mérite d'être mieux considéré, d'être mieux entendu.
Vous êtes d'accord avec Hervé Marseille, Daniel
Obono ? En partie, mais je voulais revenir sur l'intervention de l'auditrice parce que je suis tout à fait d'accord. Nous, une des propositions que nous faisons dans ce texte-là, c'est rendre légal le vote blanc, de comptabiliser le vote blanc, de prendre en compte le vote blanc. Et je pense que ce que vous disiez aussi est important parce que une des expériences qu'on a essayé de faire pour rendre la parole et pas simplement consulter les gens, mais qui puissent participer à ce débat-là. Nous avions invité une association qui s'appelle les Lucioles du Doc, qui a une démarche de vouloir écrire la Constitution. Ils ont consulté un groupe de femmes dans une association de Villeneuve-Saint-Georges, des lycéens et des collégiens de Sarcelles et des détenus de Fleury-Mérogis. Donc un panel comme ça assez divers et vraiment très, très impliqué qui a écrit et qui a voulu participer à ce débat-là. Malheureusement, il semble que la majorité des parlementaires n'étaient pas intéressés à entendre ce que ces personnes
Elle
avaient...
Elle était en commission, Mme Obono. Et vous le savez très bien.
Non, puisque la demande
Elle
a été faite...
La commission depuis 14 ans, vous le savez très bien.
Et vous savez très bien que la demande avait été faite à la commission des lois. Mais c'est anecdotique peut-être pour vous, mais pour moi c'est vraiment important. Nous, on a repris d'ailleurs un des amendements qui proposait. Mais à quel point justement le principal acteur, le principal sujet de ce que devrait être la Constitution est complètement absent de ces débats-là. Et après, on pourra parler des règles du Parlement, etc., qui doivent être au service de l'intérêt général et du peuple, et totalement absent.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, on fait des émissions, des tas de gens ont des tas d'idées, c'est vrai qu'on ne les voit pas vraiment.
Et pour finir, je crois que voilà, je suis à 30 secondes, mais sur le CESE, le Conseil, ce qui existe aujourd'hui, le Conseil économique et social, il est déjà saisi sur beaucoup de textes.
Pas obligatoirement.
Non, il est déjà saisi. Et vous n'en faites pas une obligation, vous en faites un facultatif et vous en restreignez la possibilité.
C'est le gouvernement qui en faisait une obligation, Mme Boulogne.
Vous en restreignez la possibilité, c'est pour ça d'ailleurs que ça a créé un certain nombre de... Ça a créé un certain nombre de critiques de la part de membres du CESE sur cette question-là. Et en fait, on en fait un espèce de forum dont le pouvoir est dilué, mais où sont encore... Vous parlez des corps intermédiaires, ça c'est important. Nous, on défend la présence des syndicats, la présence d'un certain nombre d'institutions. Mais où sont les citoyens, les citoyennes? Ils ne sont pas représentés là-dedans. Ils n'ont pas plus de pouvoir. Et c'est pour ça que cette révision... qui se dit d'ailleurs telle qu'elle, elle s'inscrit complètement dans la cinquième, je finis là-dessus, ne répondra pas à ce qu'a exprimé cette auditrice. C'est le retrait le fait que des gens vont plus voter, ne s'impliquent plus.
Merci Daniel Obono, Sacha Houlier.
Encore une fois, ne vous en déplaise, on a une démocratie qui est représentative. Et que par ailleurs...
C'est pas à moi que ça me déplaît.
Par ailleurs, vous nous faites aujourd'hui le procès de la participation citoyenne, mais... Il me semble que si des gens n'ont pas voté, ils n'ont par ailleurs pas davantage voté pour vous que pour nous.
Ah bah oui, mais on n'avait jamais dit le
contraire.
Et que,
par ailleurs, nous avions fait...
Nous prétendons pas le contraire.
Non mais, nous avions fait, dès la campagne présidentielle, une démarche qui était celle des grandes marches, de frapper à toutes les portes, de consulter les personnes sur ce qu'elles avaient comme avis sur les changements, et que par ailleurs, le changement institutionnel qui était évoqué sur la participation citoyenne renforcée, certes, elle est prise en compte dans les consultations préalables ou dans l'engagement citoyen dans les corps intermédiaires ou les associations, mais majoritairement, il n'est pas question de remettre en cause ce qui est l'absence de mandat impératif ou reconnaissance du vote blanc.
Karine Bécart.
Il y a quand même un paradoxe, je trouve, dans cette révision constitutionnelle concernant le CESE. C'est le CESE donc, qui a la volonté d'en faire un forum, c'est le mot qui pour l'instant est présenté, d'une espèce d'agora.
Forum de la République.
Voilà, avec effectivement des comptes constitués.
Le nom peut encore évoluer.
C'est pour ça que j'utilise tous les mots qu'on entend en ce moment. Les corps constitués seront présents, comme aujourd'hui déjà. Peut-être effectivement des citoyens. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a cette volonté de renforcer finalement la présence des citoyens au travers de ce CESE, et en même temps on se rend compte que la démocratie représentative qui normalement se joue au Parlement, là on enlève des députés. Là je trouve qu'il y a une incohérence, il y a un paradoxe assez incompréhensible.
Non, parce que d'abord sur la procédure tout doit être clair. D'abord quand le texte arrive, il est consulté, on a une consultation qui est celle citoyenne, qui est celle du anciennement Conseil économique, social, environnemental, Forum de la République, Conseil ou Chambre de la société civile, peu importe. Ensuite, il y a le passage par le filtre juridique du Conseil d'État, qui est aussi le Conseil du gouvernement. Ensuite, le projet de loi qui est déposé est celui du projet du gouvernement. Enfin, vient la représentation nationale, Assemblée nationale et Sénat. Et le texte est enfin promulgué.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous percevez en fait qu'il y a un manque de démocratie parce que vous le renforcez au CESE et en même temps vous enlevez des députés.
Il a été dit qu'il fallait des parlementaires forts, et moi que je pense que... On a des parlementaires forts quand on leur donne vraiment les moyens d'effectuer leur mission, quand on clarifie leurs compétences, quand on clarifie leurs équipes. Vous avez parlé tout à l'heure du budget de l'Assemblée nationale. Il est vrai que le budget de l'Assemblée nationale n'a pas évolué depuis près de 10 ans. C'est la raison pour laquelle on veut s'associer l'expertise de certains organismes, la Cour des comptes, dont le budget a évolué depuis 10 ans, et que je peux vous garantir que
Madame Morbonneau, je ne crois pas vous avoir interrompu.
Pardonnez-moi, mais moi j'ai encore plein de questions à vous poser, parce que dans votre réforme, il y a...
Je comprends que vous craigniez que les députés soient...
S'il vous plaît.
Alors on donne une expertise complémentaire.
Il y a beaucoup de choses dans votre réforme. Il y a notamment des mots qui peuvent fâcher. Je voudrais qu'on en parle, mais juste avant, puisqu'on en était haut représentant de la nation, on a vu tout à l'heure la diminution du nombre parlementaire. Il y a la question de la proportionnelle qui arrivera un petit peu plus tard. Est-ce que 15% ça suffit? Vous me répondez chacun rapidement, parce que sinon on ne pourra pas faire le tour de tout. Hervé Marseille, 15%, est-ce que ça suffit ou pas?
Je pense que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que ou on fait de la proportionnelle ou on n'en fait pas. C'est pour représenter les minorités. Donc avec déjà moins de parlementaires, des circonscriptions géantes, il y a des gens qui vont avoir du mal à se faire élire. Parce que 240 000 habitants, ça dilue forcément le vote. Et donc on voit très bien qu'il y a un électorat très protestataire. Des partis que j'ai combattus, que je continuerai à combattre, on trouve normal qu'ils soient au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est installé comme si c'était définitif.
Il faut combien, 30%?
Il faudrait au moins 20%, parce qu'il faut que tout le monde soit représenté. Vous avez les partis principaux qui vont déjà se servir dans les 60 députés, il n'y en aura que 60. Exactement. Et donc la part qui restera pour ceux qui ne sont pas représentés va être trop faible. C'est pour ça qu'on demande de passer non pas de moins 30% de parlementaires à moins 25, parce qu'on n'a pas parlé de nos amis de l'outre-mer, mais quand vous voyez que la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Quand vous voyez que la Calédonie, s'il n'y a plus qu'un député et un sénateur, il n'y aura plus que des élus blancs. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Kanaks élus. Donc ça pose des problèmes quand même d'existence, de prise en considération.
Daniel Obono.
Oui, non, mais bien sûr.
Combien de pourcents? Dites-moi rapidement, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous rejoindre au standard.
Il y a vraiment une proportionnelle intégrale, parce qu'on veut représenter la diversité des points de vue. Ou alors, on ne fait pas 15. Pourquoi 15? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 25? On va jouer. Voilà, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Mais pour nous, justement, on ne le prend pas par ce petit bout-là, parce qu'au bout d'un moment, ça ne veut rien dire. À quoi ça sert? À quoi ça doit servir? Nous, on renverse la logique. On dit, il faut justement refonder ces institutions. Et ça ne devrait pas être... simplement à la parlementaire que je suis, j'ai été élue, de donner mon avis, mais ça devrait être au peuple. Et c'est pour ça qu'on parle d'une constituante. Sinon, effectivement, on en vient à faire de la boutique 16, 15, 25. Au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. C'est simplement des chiffres. Et on dit
Merci,
que c'est comme ça qu'on Daniel va être efficace.
Obono. On repart au standard pour une question courte. Gwenolé, bonsoir.
Bonsoir, mesdames,
si vous
mesdames,
pouviez
messieurs.
Aller bonsoir. À l'essentiel très vite, parce qu'on a pris du retard.
Oui, je vais essayer. Alors... Vous débattez depuis tout à l'heure sur le nombre de députés qu'il faudrait ou pas réduire. Moi, ma question, c'est de demander est-ce que l'essentiel, ce serait de renforcer vraiment le rôle de la représentativité et donc d'avoir des députés qui ne soient pas soumis aux décisions de leur parti, ni aux pressions des lobbies, comme on a pu le voir beaucoup récemment, et que les gens soient vraiment proches de leurs députés. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens aujourd'hui qui ne connaissent même pas le nom de leurs députés, mais qui votent en fait juste pour confirmer leur choix.
Merci beaucoup, Gwenolé. On a bien compris le message. Sacha Houlier, est-ce que vous connaissez vos administrés, vous? Est-ce que...
Bah, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux.
Ils vous connaissent dans la rue. Et
par ailleurs, quelle que soit la pratique qu'on inscrit dans la Constitution, elle ne dépend que des hommes qui sont élus.
Et des femmes.
Des hommes avec un grand H, Madame Obono, vous le savez très bien, on a eu ce
débat. Alors justement, tiens, très bonne transition.
Mais par ailleurs, remarquez
que la majorité a dans ses rangs 47% de femmes, et donc c'est le groupe parlementaire qui a le plus contribué à la parité dans l'hémicycle.
Et nous, on est le deuxième, alors qu'on est le septième.
Par contre, à propos d'hommes et de femmes... Permettez-moi de vous dire à quoi répond l'objectif proportionnel, en deux mots. Un, à préserver le phénomène majoritaire. Deux, à faire rentrer des personnes qui aujourd'hui, des groupes politiques qui aujourd'hui sont importants dans la vie politique, à l'Assemblée pour qu'ils disposent d'un groupe politique et pour qu'ils puissent disposer de tous les prérogatives d'un groupe politique.
Droits de l'homme ou droits humains dans le préambule et la Constitution, ça restera droits de l'homme, Sacha Houlier ?
Je pense que la déclaration des droits de l'homme reconnaît autant les droits de l'homme que ceux de la femme, parce que c'est les droits de l'homme avec un grand H.
Voilà, donc on va... Le mot race, il faut le supprimer là-dessus, tout le monde est d'accord, Daniel Obono ?
Je pense qu'il faut maintenir dans la Constitution l'interdiction fondamentale des discriminations racistes. Nous, c'est comme ça qu'on l'a pris. Et si on supprime, mais il faut que ce soit inscrit que... les interdits fondamentaux, il y a la question des discriminations racistes, parce que là, pour le moment, il y a un vide, il y a un manque, il y a le préambule de 46, etc. Mais on a des amendements pour dire, voilà, il faut que ce soit inscrit, y compris pour les procédures en cours aujourd'hui qui s'appuient sur cet article premier. Donc voilà, mais je pense que ça fait partie du débat où on peut peut-être avancer, converger. Je pense qu'il y a plutôt une intention qui est partagée. Dans ce que ça signifie, mais ça va à la moitié du chemin de notre point de vue.
Hervé Marseille, une petite question sur la suite de ce qui va se passer. Alors il y a ce débat qui a lieu à l'Assemblée, ça viendra au Sénat après chez vous, mais on sait que quand c'est une révision constitutionnelle, il faut ensuite une majorité bien particulière ou alors passer par le référendum. Vous le voyez comment ? Vous pensez vraiment que ça va aboutir cette affaire ?
Écoutez,
le Sénat là-dedans.
Moi, je suis confiant. Il y a une proposition. Encore une fois, telle qu'elle est écrite, elle n'est pas acceptable sur un certain nombre de points. On l'a dit, le président Larcher l'a dit. Nous sommes désireux d'aboutir. On n'est pas contre la réforme, on n'est pas contre la baisse du nombre de parlementaires.
Et ensuite, ce sera quoi pour vous, le Congrès ?
Si on aboutit, oui, il y aura un congrès. J'espère qu'on arrivera à un congrès. Mais c'est vrai qu'il va falloir débattre. Et moi, je suis heureux qu'on défende non seulement les droits du Parlement, mais également qu'on installe le bicaméralisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres dans notre pays, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et on voit bien que dans bien des cas, c'est très utile, parce que vous voyez, c'est très survolté, l'Assemblée nationale. C'est la sagesse sénatoriale pour apporter un peu de paix dans tout ça.
Dans tout ça. Sacha Houlier, pour la suite des événements, un référendum est envisageable ou pas dans la tête d'Emmanuel Macron? Vous savez un petit peu?
Écoutez, pour l'instant, on essaie de se remettre à la sagesse du Sénat. Je crois qu'on a fait une partie de notre travail en écrivant ou en amendant le texte qui nous était soumis et qui, par ailleurs, ne plaisait pas non plus à tous les parlementaires. C'est la raison pour laquelle les amendements ont été adoptés dès la commission. Il faut qu'ils soient entérinés dorénavant en séance. Et ensuite, selon les navettes qui seront entre la parlementaire, on verra s'il y a un aboutissement possible entre l'Assemblée et le Sénat, un vote dans les mêmes termes, qui débouche enfin soit vers un référendum, soit vers un congrès.
Il va en parler, Emmanuel Macron, lundi à Versailles ?
Probablement.
Vous n'irez pas, Daniel Obono ?
Non, mais nous pensons qu'il faut un référendum, parce que sur des matières aussi fondamentales, le peuple doit être consulté de toute façon. Et nous n'irons pas à Versailles, parce qu'on a à préparer ce débat en séance. Et franchement, qu'est-ce qu'il a à dire ? À 400 000 euros, le grand Raout, on pense que...
Mais rendre des comptes au Parlement, ça ne vous intéresse pas, nous notons, il n'y a pas de problème.
Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand le président convoque à Versailles le Parlement, c'est pas pour plus de démocratie. Surtout que le Parlement n'a pas son mot à dire, puisqu'il s'en va sans même écouter ce qu'on a à dire.
Donc franchement,
oui, peut-être, mais ça, c'est les éléments de la Constitution contre lesquels nous, on se bat, parce qu'on pense que effectivement, c'est la traduction du fait du prince, du monarque présidentiel, et nous sommes contre la monarchie présidentielle. Voilà, vive la 6e République.
Merci beaucoup, Daniel Obono, merci beaucoup, Sacha Houlier. Merci. Bon courage pour la suite des événements avec ces débats à partir de la semaine prochaine. Merci, Hervé Marseille. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci aussi à vous, Karine Bécard, je ne vais pas vous oublier quand même. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Pierre Dessertaine, Simon Aresta, Karine Baudry, à la réalisation Stéphane Combe, à la technique ce soir, Ronan Mahé et Michel Bézikian. Merci aussi à nos jeunes standardistes.